Elle est faite comme Macron, Madame Mernotte. Et ces gens-là, ce sont des libéraux. Et ces gens-là, si vous leur passez un coup de fil, eh bien évidemment qu'ils vont faire attention à l'actionnaire. Elle est comme Madame Veil à Radio France. Ces personnes-là, ce sont des gens qui sont soit issus de l'ENA, soit qui sont des femmes ou des hommes d'affaires, qui n'ont aucun problème avec la gestion d'un audiovisuel public en façade, qui est un service public, alors qu'en réalité, ça se comporte quasiment comme un service privé.
TF1 ou de M6.
Et à l'instar des patrons de chaînes privées avec qui elle lance des collaborations, Ernotte ne va pas se montrer très fan de l'investigation.
Les guerres ne sont pas à la hauteur.
En 2017, elle n'était pas parvenue à externaliser envoyé spécial et complément d'enquête. Mais en 2019, Delphine Ernotte va réussir une chose. Décourager l'investigation dans les cases documentaires. Ces plages horaires réservées à la diffusion de films de société et qui sont souvent alimentées par des producteurs extérieurs. Off Investigation, on a contacté une dizaine. Tous ont souhaité garder l'anonymat, mais tous nous ont confirmé que sous Ernotte, il était devenu de plus en plus compliqué, voire impossible, de placer des sujets d'investigation ambitieux à France Télé.
Avec Takis Candilis, on a commencé à entendre qu'il fallait arrêter de proposer de l'investigation, car les Français en avaient marre des sujets anxiogènes.
Takis Candilis, issu du groupe TF1, considère le plus souvent que l'info ne marche pas et qu'il faut proposer aux gens des programmes qui les divertissent.
On a dit qu'il fallait du journalisme de reconstruction, plus positif et plus concernant.
À Paris, ce journaliste d'investigation est l'un des rares à accepter de témoigner de la façon dont beaucoup de producteurs extérieurs ont vécu ce changement de paradigme.
Ce qui s'est produit comme changement, c'est que depuis que Delphine Ernotte est présidente de France Télévisions, elle a décidé, c'est ce qu'on nous rapporte, que l'investigation c'était pour les magazines et que le documentaire, c'était pas sa place. Le documentaire, c'est découvrir, comprendre, apprendre, enfin, ça s'est présenté comme ça. C'était aussi un regard singulier, le regard de l'auteur, de l'autrice. On connaît tous ces discours plus ou moins justifiés sur l'écriture documentaire. Mais que donc, l'investigation documentaire, c'était fini. Alors c'est dommage, parce que ça fait moins d'investigation. Et si ma mémoire est bonne, France Télévisions commande et diffuse près de 1200 heures par an de documentaires. Donc sur ces 1200 heures, quand on supprime l'investigation pure et dure, et on supprime aussi des films d'investigation possibles.
Affaiblir l'investigation documentaire, c'était également à l'époque le rêve de certains macronistes, comme Marlène Schiappa.
Quand on montre sur le service public de surcroît, quand on montre sans cesse aux gens des exemples de politiciens corrompus, d'hommes politiques et femmes politiques véreux, de gens qui détournent de l'argent, de gens haineux, magouilleurs, etc., quand on ne montre que ça, je crois qu'on installe dans l'esprit des gens, waouh, ils sont tous comme ça. Et je trouve que c'est un peu une forme de populisme, de dire ils sont tous pourris. Moi, j'aimerais bien qu'on alterne et que de temps en temps, il y ait aussi des belles histoires, il y ait aussi des prismes politiques, des responsables politiques, des gens qui s'engagent, souvent pour pas grand-chose, au service de l'intérêt général, mais il y en a des milliers.
Tiens, bah, quelques semaines plus tard, un rassemblement de Reporters d'Espoir, une association qui milite pour le journalisme positif. Delphine Ernotte réclame maintenant, elle aussi, des belles histoires comme Marlène Schiappa. Nom de code, le journalisme de construction.
Ah bah, je vais vous dire exactement ce que c'est. Parce qu'en fait, il y a des pays du nord de l'Europe, des chaînes publiques qui ont adopté cette façon de faire du journalisme. Donc le journalisme de construction, c'est ceci. Vous avez un problème de métro à Copenhague, d'accord ? Donc vous avez un premier sujet qui explique que, ras-le-bol, les chauffeurs n'arrivent pas à faire en sorte que le tram, peu importe, les bus, disons, prenons les bus, arrivent à l'heure à Copenhague. 5 minutes sur les trucs en retard. Et puis, il y a aussi un autre sujet derrière, où, dans une autre ville du Danemark, ils ont trouvé le moyen de faire en sorte que les bus arrivent à l'heure. Donc, ça n'est pas la solution, c'est une solution. Donc, moi, je ne crois pas au journal des bonnes nouvelles.
Dans ce contexte où les macronistes rêvent de belles histoires, Delphine Ernotte va trouver une méthode ingénieuse pour contrôler plus étroitement les documentaires acceptés par France Télé. Explication. Avant 2019, les producteurs extérieurs pouvaient proposer leurs projets à France 2, France 3 ou France 5. Et chaque chaîne avait son guichet.
Avant 2019, on pouvait aller taper à la porte de France 5 en disant bah là, j'ai une investigation à te proposer. Alors, soit pour Le Monde en face, soit pour d'autres cases.
Et si ça passait pas ?
Et si ça passait pas, on pouvait très bien ensuite aller voir France 3 ou France 2. Et chaque chaîne étant décideuse des contenus qu'elle acceptait de prendre et de diffuser, ça donnait plus de possibilités.
Sauf qu'en mars 2019, Delphine Ernotte fusionne tout pour créer un guichet unique des documentaires. À sa tête, Catherine Alvarez, une productrice venue du groupe Lagardère qui a désormais un droit de vie ou de mort sur tous les documentaires proposés à France Télé. Pour Jacques Cotta, c'était une manière d'accentuer le contrôle de la direction sur l'éditorial.
Le guichet unique, ça veut dire qu'il y a une personne de confiance qui est chargée d'analyser tous les dossiers et de dire oui ou non, que ce soit sur France 2 ou sur France 3. Et donc, c'est une maîtrise totale et c'est non plus le caractère propre du métier qui domine, c'est en gros l'intérêt recherché par les gens qui dirigent la télévision, qui vont faire qu'un sujet est accepté ou pas.
Au risque que si ça dérange, c'est non ?
Ah bien, c'est pas au risque. C'est à mon sens, c'est si ça dérange, ce sera non.
À quoi ressemble ? Résultat, France Télé commande surtout désormais des documentaires et formats feel good, où l'on célèbre des solutions positives et des belles histoires.
On essaie de trouver des solutions pour que les algues reviennent là où elles ont disparu.
Quitte à recourir à des images de synthèse pour réparer la nature.
On se rend compte de sa vraie valeur. Quand on repense à ce que c'était et qu'on voit ce que c'est devenu.
Autre tendance des médias mainstream un peu en mode Netflix, faire des films sur les narcotrafiquants et autres drames de l'actualité qui permettent de ne pas trop questionner les dysfonctionnements des pouvoirs. À la tête de ce réseau. Témoignage de la journaliste d'investigation qui avait enquêté sur Bernard Arnault en 2018.
Il en possède près de 47%.
J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu Netflix de la série voilà, sur le narcotrafic, la drogue, machin.
Les gros méchants.
Les gros méchants. Je me pose la question, est-ce que ça permet pas de détourner le regard de la délinquance en col blanc ? Et qu'à côté de ça, l'évasion fiscale continue et que Bernard Arnault, entre le moment où j'ai fait mon enquête et aujourd'hui, je crois qu'on est passé de 58 milliards à 200 milliards, mais c'est délirant, quoi, en fait, c'est... Et à côté de ça, les services publics sont par terre. Il manque 2000 profs. Hein. Voilà, voilà, y a plus assez de profs pour éduquer nos enfants. Voilà, et en même temps, moi, ce que je vois, c'est ça, c'est cette tendance à faire des séries sur les narcotrafiquants. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a encore de la place pour ce travail d'enquête qu'on a fait pendant ces années florissantes de l'investigation ?
Ouais. Il y a un seul sujet où tout le monde est prudent à France Télé, c'est la politique. Mais c'est là où les responsables de France Télé, les responsables des programmes, se posent plus de questions. Parce que, par exemple, M. Sarkozy, qui a beau avoir abandonné la politique, est toujours un homme influent. Parce qu'il est très difficile, forcément, d'enquêter sur la présidence de la République, de se faire d'influence. Qui peut aujourd'hui diffuser un vaste documentaire d'enquête sur la manière dont la présidence de la République a pu fonctionner ces dernières 5 ou 7 années ? Pas grand monde.
En 2017, sidéré par l'ascension éclair d'Emmanuel Macron, Jacques Cotta avait tenté d'enquêter sur le phénomène pour France 2, sans succès.
Comment est-ce qu'un individu qui est un illustre inconnu du public arrive à être président de la République en 2 ans ? Quel soutien ? Quel financement ? Quels appuis politiques ? Quelle histoire ? Quelle orientation ? C'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je veux traiter.
Un sujet clé, en effet.
Eh bien, ce sujet-là, il a été impossible de le traiter. On m'a pris pour un fou lorsque je l'ai proposé. Le sujet que je voulais traiter, c'était le système lui-même. Eh bien, ça n'a pas été possible de le faire.
En cette année 2017, France Télé préférera commander un film à un ami du président, Bertrand Delay. Une belle histoire, celle-là, pour les 1 an de Macron à l'Élysée. Un documentaire où le président enchaîne les satisfecits à la gloire du président.
C'est une formidable bataille. Donc c'est tout sauf un sacrifice.
Pendant plus de 9 mois, nos caméras ont suivi le président dans son baptême du feu.
Est-ce que c'est facile d'être président ?
C'est pas plus difficile qu'autre chose. D'abord, je l'ai voulu.
Découvrez une liberté de parole peu commune.
On est dans une trajectoire sur une courbe qui est ascendante sur le terrain de la prise en main et de la maîtrise des contenus de la télé. Voilà, et on en arrive là, ça, où on vous dit aujourd'hui ouvertement, c'est plus possible. Et où d'ailleurs on conduit des gens à se dire eux-mêmes, je ne vais pas le proposer parce que je sais que ce ne sera pas possible, donc je ne fais plus mon métier volontairement. Et c'est ça qui est terrible. Ce qui est terrible, c'est qu'on arrive, à mon avis, à façonner sur un mode orwellien le caractère même du journaliste d'investigation, de ce qu'il devrait être, et qui d'ailleurs se persuade lui-même, parce qu'il faut bien vivre, que tout compte fait, il ne peut rien, mais que c'est comme ça.
De petits renoncements en petits renoncements.
Absolument, oui. Eh oui.
Et cette lente prise de contrôle macroniste ne va pas entraver que les documentaires. Elle va aussi contaminer certains plateaux du service public. Voici comment. Depuis son arrivée à la tête de France Télévisions, Delphine Ernotte a laissé des amis du président privatiser à bas bruit les talk-shows politiques de France 5. Vous savez, toutes ces émissions en C de fin de journée, où des personnes importantes viennent débattre des sujets du moment. Le point commun de toutes ces émissions à l'ambiance bourgeois-bohème, Delphine Ernotte les a confiées à deux gros producteurs privés, proches de Macron. Xavier Niel et Renaud Levent-Kim. Ancien producteur du grand journal de Canal+, Levent-Kim a été débarqué de sa boîte de prod par Vincent Bolloré en 2015. Il a ensuite fondé Brut et Together, qui produit depuis 2016 les émissions de Karim Rissouli, C'est ce soir, et de Thomas Negaroff, C'est politique. Chaque année, Levent-Kim générerait près de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à France Télé. Alors, quand il est interrogé dans les médias, il n'oublie jamais de remercier sa bienfaitrice, comme Delphine Ernotte dans Le Monde en 2019.
J'adore échanger avec Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. J'adore cette femme, très disruptive, inattendue.
Levent-Kim flatte aussi Nathalie Darigrand, celle qui lui avait ouvert les portes de France 5 en 2016.
Je remercie encore Nathalie Darigrand de m'avoir permis
de mettre... Qui est la patronne de France 5.
Qui est la directrice de France 5, qui m'a permis de mettre et qui avait envie et qui nous a beaucoup soutenus.
Quelques années plus tard, après avoir signé les chèques pour Levent-Kim à France 5, Darigrand sera nommée directrice générale de Together, la société de Levent-Kim. Bonjour, l'entre-soi et le pantouflage, avec l'argent du contribuable. Et aux côtés de Levent-Kim à France 5, un autre mastodonte privé se taille depuis quelques années la part du lion à France Télé. Le groupe Media One, contrôlé par le fonds d'investissement américain KKR. Véritable empire macroniste, il a pour actionnaire Xavier Niel, propriétaire de Free, c'est un très proche de Macron. À ses côtés, Mathieu Pigas, banquier de chez Lazard et ami de Dominique Strauss-Kahn, et Pierre-Antoine Capton, un producteur de Trouville. Au fil des ans, Media One a racheté une soixantaine de sociétés de production. Et sous Macron, Niel, Pigas et Capton ont fait leur trou à France 5. Ils y produisent C'est dans l'air, animé par Caroline Roux. C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine, ou encore Célebdo, Ali Badou.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Célebdo, merci d'être fidèle.
Montant du pactole, près de 150 millions d'euros par an. Une poule aux œufs d'or, comme le reconnaissait Xavier Niel devant les sénateurs en 2022.
Nos travaux en audition.
Et qu'est-ce qui est devenu Media One ? Media One est devenu un des trois leaders européens. La production marche incroyablement bien en France. Pierre-Antoine Capton, qui dirige ce groupe, fait un boulot incroyable, fantastique. Encore une fois, c'est une idée qu'on a eue il y a 4 ans avec Mathieu Pigas et lui, tous les trois. On est 4 ans après. Il a acheté 70 entreprises de production audiovisuelle. 60 entités qui sont restées indépendantes, qui se développent. Et encore une fois, avec une liberté éditoriale, parce que c'est pour ça que ça marche. Si on n'a pas cette liberté éditoriale, ça ne va pas marcher et ça ne va pas fonctionner.
Liberté éditoriale, à voir. Car l'actionnariat de Media One est, comment dire, très macroniste. Avec Xavier Niel, bien sûr. Mais également Pierre-Antoine Capton, le producteur de Trouville. lui aussi a réussi à s'attirer les bonnes grâces du président, notamment en produisant dès sa campagne de 2017 un documentaire à sa gloire sur TF1.
Nous avons été les seuls à suivre Emmanuel Macron durant les 200 jours qui ont précédé son élection.
Ils verront un type qui a envie d'y aller.
Depuis, entre Macron et Capton, c'est le parfait amour. En 2022, le puissant producteur recommandait au président un lobbyiste de l'école Murdoch pour gérer sa com. Frédéric Michel. Des réseaux d'influence qui permettent à la Macronie d'être directement connectée aux émissions politiques de France Télé, selon le journaliste Marc Endeveld.
Sur les fameux talk shows, c'est Renaud Levent-Kim qui lui produit C'est ce soir et c'est politique. Pierre-Antoine Capton produit C'est dans l'air, C'est à vous et C'est l'hebdo. Donc tous les grands talk shows de l'audiovisuel public sont aux mains de ces deux gros producteurs-là. Et Frédéric Michel est autant copain de Pierre-Antoine Capton que de Renaud Levent-Kim. Frédéric Michel, il va évidemment rapprocher l'Élysée de l'audiovisuel public par l'importance de ces talk-shows-là.
Bonsoir. Résultat, à chaque fois que le président veut se rendre beau et cool pour draguer les électeurs de centre-gauche, il va sur C'est à vous. Pour rigoler complice avec la bande de Capton quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle en 2022...
Tu feras quand même valider les photos, Loïc. On était ravis de recevoir un président candidat ici sur notre plateau.
Une question, monsieur le président.
Ou alors en décembre 2023, où il avait rendu hommage à un Depardieu accusé de viol en plein débat sur la très contestée loi immigration.
Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu.
Un an plus tard, à l'Élysée, en remerciement de ses bons et loyaux services, le président de la République décernait à Pierre-Antoine Capton, le producteur de C'est à vous, une légion d'honneur. Le syndicaliste de France Télé, Jean-Jacques Cordival, dénonce depuis 10 ans ce petit entre-soi.
C'est quoi le problème que des émissions du service public politique soient trustées par des amis du président ?
Bah, vous voyez pas un problème quand vous avez ça ? Vous me dites quel est le problème si des émissions politiques sont trustées par des amis du président. Bah, c'est, je sais pas, l'impartialité, le pluralisme, la véracité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pierre-Antoine Capton, que le président de la République a décoré de la Légion d'honneur récemment. Voilà. Et Xavier Niel, qui est allé faire la pub pour sa nouvelle box sur l'émission de France 5 qui produit sur France Télévisions.
Ah bon ?
Ce que vous vendez, c'est la nouvelle box Ultra.
Ah oui, c'est vrai. Niel vend des box aussi. Alors, fin janvier 2024, il était allé en faire la promo sur son plateau, en répondant aux questions de son employé. Pratique.
Vous l'avez présentée ce matin, elle coûte 50 euros la première année, 60 euros les années suivantes, avec toutes les plateformes de streaming, Netflix, Amazon, Disney et Canal+. L'Ultra Box qui est plus chère que la précédente, la Delta, mais qui reste très concurrentielle.
Voilà. Et il a d'ailleurs été sanctionné un peu pour ça par le CSA, qui a dit « Oui, il faut être vigilant quand même. Hein. » Voilà, il faut être vigilant. Donc oui, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont proches du président, mais que tout le monde connaît, Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton, qui sont dans Media One. On est en conflit d'intérêts évident, permanent. C'est pas possible autrement. Comment voulez-vous vous dire ça C'est une évidence qu'il y a un conflit d'intérêts.
Sous Emmanuel Macron, Delphine Ernotte aura donc accepté bien des compromissions.
Je ne ferai pas tout avec moi.
3 ans plus tard, les économies réclamées par le chef de l'État ont été concédées.
C'est quand même un effort de près de 400 millions qu'il faut qu'on arrive à trouver.
La télé publique s'est lentement privatisée pour le plus grand bonheur des amis de Macron. L'investigation a été éliminée des cases documentaires. La télé privée façon TF1 M6 érigée en modèle. Pour des contenus aseptisés, voire complètement macronisés.
La révolution de la planète est en marche.
En 2020, c'est avec ce bilan très macron-patible que Delphine Ernotte se présente devant le CSA pour être renouvelée pour un deuxième mandat.
C'est un honneur pour moi et une joie de venir présenter devant vous ma candidature à la présidence de France Télévisions. La télévision publique, c'est une formidable entreprise de rêve qui se heurte aux réalités. La télévision publique, c'est contribuer à un projet de société.
Tout
Tout en novlangue macronienne, Delphine Ernotte va chanter les louanges d'une fusion de l'audiovisuel public prônée par Macron, mais décriée par ses troupes. Écoutez bien.
Je ne sais pas encore, mais j'ai des convictions. La première, c'est que l'union fait la force. Il faut poursuivre la dynamique de projets communs au sein de l'audiovisuel public. Parce que c'est par des projets emblématiques qui rassemblent les énergies que nous allons progressivement construire une holding par la preuve. Toutes celles
et tous ceux... Une petite musique libérale de nature à séduire le président du CSA, nommé par Macron. On a besoin de... Le 22 juillet 2020, le gendarme de l'audiovisuel renouvelle le mandat d'Ernotte. Pour Christophe Nobili, c'est le signe qu'elle avait accepté d'être mise au pas par l'exécutif.
Comment vous mettez le service public au pas? Vous lui mettez une grosse laque en disant c'est la honte de la République, vous faites une campagne contre Ernotte, vous lui serrez les budgets, vous lui enlevez 20 millions par-ci, 40 millions par-là, vous la sonnez. Et là, la pauvre, elle pleurniche, elle dit moi je veux fromage et dessert, je veux pas fromage ou dessert. Bon, bref, tout ça c'était très rigolo. Vous avez une grève en 2017, enfin bon, bref. Et après, eh ben, à nouveau derrière, vous lui faites comprendre que vous allez faire en sorte qu'elle soit renommée, et là, vous l'avez, elle redevient gentille. Vous redevenez gentil avec elle, et c'est comme les maris violents, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils frappent, et après ils viennent vous faire des bisous. Et c'est comme ça qu'ils... Eh oui, non mais c'est la même chose. Quand un PDG arrive dans une nouvelle boîte, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe un tiers de la direction, il se comporte comme le dernier des salopards, il met les gens sous pression, il leur fait peur, puis après il va les câliner en disant « toi t'es formidable ». Et c'est comme ça que vous tenez les équipes. Et ben Macron, il a fait pareil avec Ernotte. Il arrive, il lui baisse les budgets, il lui coupe tout, et le deuxième mandat, ben, ça roule. C'est-à-dire, Macron sera plus jamais emmerdé par Ernotte. Voilà, ne sera plus jamais emmerdé par Ernotte.
Informe, élève et émancipe.
Parmi les couleuvres avalées par la présidente de France Télé lors de son second mandat, la suppression de sa seule ressource financière pérenne, la redevance. Vous venez de voir la première partie de notre nouvelle enquête. L'intégralité du documentaire est déjà disponible sur notre site offinvestigation.fr et en avant-première pour nos abonnés. Si vous souhaitez voir la suite dès maintenant et surtout nous permettre de continuer à enquêter librement sur les milieux du pouvoir des médias et de l'argent, abonnez-vous. Votre soutien garantit notre indépendance et la possibilité de produire ce genre d'enquête sans sponsor, sans actionnaire extérieur et sans aucune pression éditoriale. Si vous regardez cette vidéo après la sortie complète sur YouTube, sachez que tout cela n'existe que grâce à celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Merci et à très bientôt pour la suite.